jour, de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver pour ces rediffusions d'été en langue sifflée aujourd'hui. C'est une première sur RFI. Nous allons nous demander pourquoi et comment, dans le monde entier, de l'Amazonie à la Sibérie, en passant par la Turquie et le Cameroun, des hommes parlent en sifflant. Des langages élaborés, complexes, qui leur ont permis, bien avant les téléphones portables, de communiquer à distance, à travers la forêt ou d'une montagne à l'autre, et de se faire entendre. Comment comprendre et préserver ces langues sifflées encore en usage, mais pour combien de temps dans de nombreux endroits du globe? Qu'est-ce que cet autre registre de la parole, ni chuchoté, ni crié, mais sifflé, dit de nous et de l'origine du langage? Aurions-nous sifflé avant même de parler? Autant de questions qui intriguent les spécialistes du langage et les acousticiens comme notre invité, Julien Meyer, linguiste et bioacousticien, qui nous avait fait partager en novembre dernier quelques-unes des langues sifflées qu'il a étudiées et collectées au Brésil, aux Canaries ou en France, dans le Béarn. Autour de la question « Pourquoi tant de langues sifflées ?» Bienvenue. Bonjour Julien Meyer.
Bonjour.
Ah, vous m'avez dit bonjour là.
Oui, bonjour, je peux aller plus loin.
Allez-y,
faire
allez-y.
Une phrase plus longue. Bonjour Caroline.
Ah.
Qu'est-ce que tu veux ?
Là, j'ai même compris. Qu'est-ce que je veux ? Merci en tout cas. Ce que je voulais, c'était que vous veniez siffler en direct sur RFI. C'est fait. Vous êtes linguiste, Julien Meyer, et bioacousticien, chercheur au CNRS, au laboratoire GIPSA de Grenoble, spécialiste, donc, on vient de l'entendre, des langues sifflées, que vous étudiez sur tous les terrains du monde, des îles Canaries au Brésil. Vous venez de passer 5 ans autour d'un projet de recherche avec l'Université de Belém pour étudier les langues sifflées d'Amazonie. Vous êtes aussi le créateur du site Le Monde Siffle, dans lequel vous répertoriez plus d'une cinquantaine de langues sifflées dans le monde. Alors je sais que ce terme, vous l'aimez pas trop, de langues sifflées. À chaque langue sifflée correspond quoi? Une langue parlée? On siffle en langue? Comment est-ce qu'on pourrait dire ça?
Oui, on dit que c'est un registre de la parole. On parle en sifflant, comme on peut parler en chuchotant, parler en criant. C'est juste une adaptation du langage pour communiquer à distance.
Pour communiquer à distance, c'était le premier téléphone portable, c'est ça? Pourquoi parler en sifflant?
Là, c'est un téléphone portable gratuit, naturel et effectivement écologique en plus, pour aider les activités de subsistance au quotidien dans des environnements qui bloquent soit la vue, par exemple dans les forêts denses, soit qui augmente les distances auxquelles on a des fois l'occasion de se parler dans ces activités, comme par exemple quand on garde les moutons. On peut être face à voir, apercevoir au loin sur l'autre vallée d'autres personnes, des amis ou d'autres bergers, et puis avoir envie de leur dire quelque chose. Mais si on veut les rejoindre, il faut descendre en bas, remonter, ça peut prendre plusieurs heures. Même aujourd'hui, en fait, hein, en voiture, ça peut prendre une demi-heure. Alors qu'en sifflant, on peut parler jusqu'à 2, 3, même des fois 8 kilomètres.
Et très bien se comprendre. Je propose de commencer, Julien Meyer, ce tour du monde des langues sifflées sur l'île de la Gomera, aux Canaries, avec le silbo. C'est peut-être la plus connue des langues sifflées. Vous la pratiquez d'ailleurs, c'est l'espagnol sifflé des Canaries. On écoute cette phrase et vous nous traduirez ensuite. Traduction, Julien Meyer.
Alors là, on entend Lino Rodriguez, qui est reconnu comme un des maîtres de langue sifflée, et il dit « En todo, el mundo, ahí, donc il y a, j'allais le dire en français, hombres que hablan silbando ». Donc ça veut dire « dans le monde entier, des hommes parlent en sifflant ».
Et donc c'est en espagnol. Je vous propose d'écouter une autre phrase sifflée en silbo.
Donc là il dit « Esta práctica está en armonía con la naturaleza », ce qui veut dire ce qu'on a dit avant, hein, cette pratique est en harmonie avec la nature.
Et pourquoi aux Canaries? Parce qu'on connaît hein, cette langue silbo, cette langue sifflée des Canaries sur toutes les îles. D'ailleurs, la Gomera, je crois, cette langue sifflée a été classée patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Sur toutes les îles des Canaries, on pratique ces langues sifflées?
Alors aujourd'hui, elle se pratique sur beaucoup d'îles parce qu'ils ont fait renaître la pratique. Elle s'est le mieux préservée à la Gomera. Et donc, c'est la Gomera qui a demandé ce statut. Ils l'ont obtenu en 2009. C'est une démarche qui doit passer par les politiques pour obtenir ce statut de patrimoine immatériel de l'humanité. Par contre, il y a aussi des initiatives locales, populaires, comme l'association Yosilbo, qui, eux, ont voulu relancer aussi cette pratique sur d'autres îles, parce qu'elle se pratiquait aussi à Tenerife. Il y a beaucoup de registres ou de textes anciens qui le montrent. Et puis, surtout à El Hierro, il y a
sur une autre île des Canaries.
Oui, El Hierro, c'est l'île de fer. Donc c'est une île des Canaries assez petite, donc assez isolée, et c'est pour ça que ça s'était bien préservé là. On va dire que c'est la deuxième île où ça s'est le mieux préservé après la Gomera.
Et ça s'était préservé parce que c'était utile. C'est quoi? C'est moins utile aujourd'hui? On le redécouvre grâce à des chercheurs comme vous et d'autres qui vont creuser un peu l'histoire de ces langues sifflées?
Eh ben ouais, on le redécouvre parce que il y a des gens qui sont passionnés par ça, des gens locaux aussi qui sont passionnés par cette pratique. Aux Canaries, ça marche bien. Il y a plus de 700 élèves, par exemple, à l'association Yosilbo.
Des jeunes, donc
oui,
des jeunes
de tous les âges, des jeunes, des vieux, des enfants, des familles entières. Nous, on est allé voir, c'est assez motivant, quoi. Moi, je me sens plus tout seul quand je vais là-bas. Et par contre, comment dire, ce que je voulais dire, oui, c'est pourquoi là-bas? Parce que en fait, c'est des îles volcaniques où il faisait beaucoup d'élevage de moutons, de chèvres, et où les vallées sont très étroites, très très escarpées. Les montagnes sont escarpées. Donc c'est le milieu écologique idéal pour communiquer loin quand on siffle.
Alors sur une autre île, alors non pas aux Canaries, mais en Grèce, cette fois-ci, on communique et on converse en sifflant.
Καλώς ήρθατε. Τι θέλετε? Παρακαλώ, θέλω να φάω. Είναι εντάξει. Μπορώ να έχω μελέτα. Ευχαριστώ.
On comprend presque le grec quand on a le Ephaïsto et qu'on entend le sifflement des Ephaïsto. Toutes les langues peuvent se siffler, pourraient se siffler
Je pense que oui. En tout cas, les recherches qu'on a faites montrent que la parole sifflée se limite pas à une structure linguistique, se limite pas à des langues simples, comme peut-être autrefois certains chercheurs l'avaient dit, en étant étonnés par ça, et puis même étonnés par les possibilités de communication des gens. Par la capacité de reconnaître des choses complexes dans quelque chose qu'ils ne comprenaient pas du tout. D'ailleurs, la parole sifflée est utilisée pour ça, pour parler en cachette des étrangers. Donc, c'était
c'est aussi une langue codée, en fait.
Pas codée, c'est juste comme quand vous écoutez une langue étrangère, vous ne la reconnaissez pas. Mais là, en plus, si vous n'êtes pas entraîné, si vous parlez la langue, mais que vous n'êtes pas entraîné dans sa reconnaissance en mode sifflé, vous allez avoir du mal à décoder les phrases.
C'est
du collage linguistique, mais sur un autre registre de son qui demande un entraînement. Comme quand vous écoutez du chant soprano, vous avez besoin de pratique pour à l'écoute décoder ce qui se dit.
Donc il y a une pratique à la fois de la musculature de la bouche pour savoir siffler, ce que moi je ne sais pas faire par exemple, et il y a aussi une pratique pour reconnaître effectivement les différents sons.
Oui, oui. Ce qu'il y a, c'est que ça s'appuie sur des sons qui sont dans la parole, ça s'appuie sur notre manière de les percevoir dans la parole. On dit la parole modale, nous en phonétique, c'est en gros la parole ordinaire, la parole normale, on va dire, celle qu'on a quand on est proche, là, en ce moment. Et donc ça s'appuie sur ces sons-là. Mais ces sons-là, ils sont très complexes parce que la voix, elle utilise une stratégie, on va dire, polyvalente. Pour couvrir les bruits qu'il y a un peu quand on est proche, on a quand même beaucoup de bruit dans les villages, beaucoup de bruit et ça s'adapte bien à la ville cette voie-là. Par contre, pour parler très loin, on a besoin d'autres stratégies. C'est pour ça qu'on se met à crier. On garde une voix, la voix dans un premier temps. C'est une stratégie polyvalente encore, mais on insiste plus sur les voyelles là. On renforce les voyelles, on les fait durer un peu plus longtemps, on pousse l'énergie sur les cordes vocales. Dans le sifflement, comme les cordes vocales, elles se fatiguent hein, au bout d'un certain moment, dans le sifflement, on choisit de plus être sur les cordes vocales, mais à l'avant de la bouche, et on fait...
Mais on arrive à faire des lettres, même avec l'avant de la bouche.
Bah parce qu'en fait, on les articule avec l'avant de la bouche, ces lettres-là. Donc là, la différence, c'est que la source et l'articulation sont au même endroit, alors qu'avec les cordes vocales, la source est plus en bas et plus en arrière. Et du coup, on peut coder un petit peu moins de choses en langue sifflée. En tout cas, il y a un petit peu plus de confusion du fait de qu'on concentre tout à l'avant de la bouche.
Mais ça nous permet... Donc il faut avoir l'oreille un peu plus aiguisée pour comprendre ces paroles sifflées.
Pour faire une comparaison, on peut dire que c'est un peu comme écouter de la parole dans le bruit. On est obligé de reconstruire un peu ce qui se dit, hein, quand il y a des sons qu'on n'entend pas, mais on y arrive. Le cerveau humain est très fort pour ça.
Eh bien, je propose à notre cerveau humain d'écouter un extrait de l'album Silbo de Philoche, entre paroles et musique, paroles sifflées et musique, sur RFI.
89 FM.
Les hommes parlent comme les oiseaux. Sur l'île de la Gomera, on entend El Silbo en écho. Entre deux montagnes amarrées aux nuages, un guanché siffle pour s'inviter à dîner. Au menu, un mojo piquant qui monte aux yeux, et à nouveau un sifflement pour se dire adieu. On ne le distingue dans l'argile que par le son de son sifflet. La lucha canaria pour protéger son île, El Silbo pour braver la guardia civile. Wawa escalade les jardins en escalier. Sous le volcan de la balade, El Silbo perce la fumée. Et me voilà, petit géant, prêt à siffler dans le vent. Les deux, trois mots que j'ai gardés s'envolent vers toi. Comero Bonifacio.
Féloche sur RFI qui siffle le silbo et qui nous fait remonter, Julien Meyer, à l'origine de cette langue, ou plutôt de cette parole sifflée.
Bah oui, il parle des guanches qui sifflent. C'est pour ça que ça a du succès, les initiatives de revitalisation aux Canaries, c'est que le silbo est un des restes de la langue qui était parlée avant la conquête espagnole. Un des rares restes avec quelques mots de vocabulaire du guanche, qui est une langue berbère, qui a disparu. Hein.
Mais, donc le silbo, c'est un mélange d'espagnol et de langue berbère sifflée?
Non, c'est juste la pratique sifflée, parce que les activités de subsistance comme berger étaient toujours là au XVIe siècle, et passées dans la langue dominante, parce que la population avait été acculturée mais n'avait pas changé son mode de vie rural.
Et donc elle avait gardé cette parole sifflée,
voilà,
qui est donc originaire. Donc ce qui veut dire que les berbères, vous avez trouvé des traces aux berbères chez les berbères au Maroc de paroles sifflées.
Bah alors, il y avait plusieurs indices déjà depuis longtemps que cette pratique existait dans l'Atlas marocain ou dans les déserts où il y a encore beaucoup de populations différentes berbères, et notamment dans un livre de l'Ecclésio, hein, Désert, où il parle d'une communication en paroles sifflées, en chleu, lui dit, donc je pense que c'était le Tachelhit. Et puis il y a des gens d'une association, donc Gérard Pucheux en particulier, une association béarnaise qui était comme nous, à la recherche de cette pratique, qui sont allés là-bas. Enfin, lui, il est allé là-bas en 2013, à l'été. Et puis, il a trouvé des siffleurs dans les montagnes de l'Atlas. Donc, ensuite, avec un linguiste berbère et puis d'autres scientifiques, on est allé enregistrer cette pratique. Et on a commencé à l'analyser. Donc, le linguiste berbère, il est à Paris, il s'appelle Rachid Ridouane. Et on continue cette étude.
Donc vous travaillez en collaboration avec des linguistes, et vous avez parlé de ce chercheur béarnais. C'est pas étonnant parce que dans le Béarn, il y a effectivement aussi une parole sifflée. C'est dans le village d'As, dans les Pyrénées. On en écoute un extrait. Parole sifflée du Béarn, enregistrée par un de vos maîtres.
Ouais, voilà. C'est enregistré par René Guy Busnel. Je pense que cet enregistrement date des années 60. Il est disponible gratuitement sur Internet dans une vidéo sur le site Canal U, hein, où il y a beaucoup de vidéos d'éducation scientifique qui sont disponibles.
Et on peut aussi trouver ce son sur votre site, hein,
oui,
Le Monde
aussi,
Siffle, ouais. Site de recherche sur les langues sifflées.
Et c'est vrai que moi j'ai appris la bioacoustique avec ce monsieur qui est décédé cet été.
Et qui était un des premiers.
À l'âge de 103 ans.
Ça conserve de siffler ou de travailler sur les langues sifflées. Mais ça a été un des premiers quand même à s'intéresser comme ça, à cette parole sifflée.
Oui, en tout cas, dans les années 70, il a fait renaître l'intérêt avec deux autres personnes, avec qui il a bossé d'ailleurs. Il a écrit même un livre sur les langues sifflées avec André Classe, qui lui avait étudié la langue sifflée aux Canaries. Busnel, lui, il est allé en Turquie. Il a monté toute une expédition dans les années 70.
Oui, parce qu'il y a aussi des langues, de la parole sifflée en Turquie, on y reviendra.
Ouais, et d'ailleurs, Féloche, là, il parle de la langue des oiseaux, sifflée comme les oiseaux, à Kuşköy, là où il siffle,
Turquie.
En Turquie. Kuşköy, ça veut dire le village des oiseaux.
C'est la langue des oiseaux.
Et donc, Kuşdili, c'est la langue des oiseaux et c'est la langue sifflée chez eux.
Nouvelle question pour vous, spécialiste des langues sifflées ou des paroles sifflées, Julien Meyer, c'est celle de Carole Châtelain du mensuel Science et Avenir. Est-ce qu'il existe des accents dans les langues sifflées? Votre réponse, Julien Meyer.
Mais moi, quand je siffle en espagnol, j'ai l'accent français, c'est sûr, ouais.
En sifflant, vous avez l'accent français, c'est-à-dire...
Eh oui, si je dis, corre, corre... mon R, il n'est pas parfait, et je peux être amené à le dire à la française, coré, coré. Et à ce moment-là, mon sifflement, là, c'est plus à l'espagnol, mais coré, coré, ce serait. Et du coup, si je prononce mal, j'ai l'accent français. Mais je siffle, j'essaye de siffler en espagnol. Donc, c'est juste qu'on essaye de prononcer au mieux, hein.
Mais il faut connaître la langue que l'on siffle, évidemment. On ne peut pas siffler une langue que l'on ne connaît pas. Enfin, ou alors on pourrait l'interpréter, mais ce ne serait pas la même chose. On ne peut pas parler dans une langue qu'on ne connaît pas en sifflant.
Ouais, voilà, on pourrait faire comme font les gens, des fois, des artistes qui interprètent d'autres chansons, des chansons dans d'autres langues, mais on comprendrait pas ce qui se dit. Et on a du mal à le réaliser en précision. C'est d'ailleurs ce qui se passe, par exemple, aux Canaries, où les gens réapprennent à siffler sur des îles où ça s'était perdu. Ils ont des accents différents aux Canaries, hein. Dans l'espagnol, il y a différentes variantes dialectales sur ces îles, du fait aussi du fait d'être isolé sur des îles différentes. Et du coup, la parole sifflée, eux, ils disent « se naturaliza » dans l'accent local.
La parole sifflée se naturalise dans la langue locale. C'est magnifique. On continue ce tour du monde des langues sifflées du côté du Laos. Au Laos, où je vous propose d'écouter la langue sifflée des mondes d'Asie du Sud-Est, extrait de l'enregistrement de Jérôme Petit pour Arte Radio. La langue sifflée mong passe par-dessus le chant du coq, les différents bruits de la forêt. Julien Meyer, je ne demande pas de traduire parce que vous ne parlez pas le mong, vous ne pouvez pas comprendre cette langue sifflée-là, mais elle a cette particularité de passer par-dessus tous les autres bruits, sons de la forêt.
Oui, et puis là, souvent, chez les mong, ce qui est resté en langue sifflée, ce sont des chants ou des poésies amoureuses.
Ah,
la plupart du temps,
amoureuses.
Donc pas forcément chantées, mais le fait de les entendre en sifflement, ça donne une mélodie, une esthétique qui apparemment marchait pour séduire, ou marche encore pour séduire.
Le sifflement, même si nous, dans nos contrées, ou en Italie, ou ailleurs, on ne sait plus parler les langues sifflées, ou elles ont disparu, il reste toujours ce joli petit sifflement dans la rue, ça marche quand même, dans la conversation amoureuse, tout le monde le comprend.
Oui, oui, bah ça, mais là, du coup, c'est un code. Alors que là, en langue sifflée, ils disent des phrases, des poésies, du coup, des phrases de poésie. Et comme nous, on pourrait déclamer, je sais pas moi, du Baudelaire ou autre chose en sifflant. Ce qui est particulier aussi dans cette langue, c'est qu'ils arrivent à chanter et à siffler en même temps parce que c'est une langue tonale. C'est une des langues tonales, d'ailleurs,
C'est une langue qui est en ton, contrairement à nos langues occidentales ou à d'autres langues dans le monde. C'est comme le chinois ou ce genre de langue. C'est une langue qui est en ton. C'est
voilà.
Ça. Donc il y a déjà une mélodie.
Qui utilise la mélodie de la voix pour changer le sens des mots ou changer la grammaire des mots. Donc la conjugaison, par exemple, on fait un A aigu ou un A grave et ça va changer le verbe, la conjugaison du verbe en futur ou en présent.
Elles sont du coup plus faciles à siffler, ces langues-là, ou à mettre en sifflement ? Je ne sais pas comment le dire.
Non, je dirais que c'est un exercice différent et du coup, c'est une catégorie différente de langue sifflée. C'est le fait qu'on réduise en fait l'information dans la bouche, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qu'on mette tout à l'avant de la bouche pour produire et articuler, fait qu'on ne peut plus produire des détails avec les cordes vocales les tons font partie des détails qui sont codés avec les cordes vocales dans la voix.
Et donc il faut les remettre autrement. Enfin.
Donc là, si on veut les mettre en sifflement, et c'est ce qui se passe dans les langues tonales, on cible essentiellement cette partie-là. Du codage de la parole, il faut le transférer à l'avant de la bouche, ce qui est habituellement codé avec le fond de la bouche. Et du coup, on articule moins, on peut plus vraiment articuler les voyelles, mais il y a tellement de tons dans la langue mong que l'information qu'elle passe, enfin que cette partie de la voix passe, permet de se comprendre si on fait des phrases assez longues.
Voilà pourquoi ça intéresse tant les bioacousticiens, hein, ces langues ou ces paroles sifflées. Vous-même, Julien Meyer, vous l'avez étudié en Amazonie et en Guyane française. Vous avez passé 5 ans au Brésil. Vous travaillez en association avec l'université de Belém. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, vous travaillez avec des linguistes hein, d'ailleurs, dans ces langues amazoniennes.
Voilà, donc je travaillais à Belém au Muséo Goldi, qui est un institut de recherche un peu comme le CNRS, mais là, limité à une institution. On peut avoir des activités avec la fac, mais pas forcément. Et par contre, on est concentré sur l'analyse, la préservation du contexte, ils disent, socio-ambiental. C'est un mot qui n'existe pas vraiment en français. Mais
socio-environnemental.
Voilà, mais... socio-environnemental. Et les langues en font partie. Donc, une des tâches du Muséo Goldi, c'est de documenter les langues qui sont en danger en Amazonie. Et moi, je faisais partie de cette équipe qui faisait ça.
Parce que ce sont des langues pratiquées par les Indiens. Ces langues sifflées font partie de ces langues de moins en moins pratiquées ou en danger de disparition.
Bah, du coup, la parole sifflée, c'est un des aspects qui meurt en premier dans les langues. Parce qu'il est lié aux activités traditionnelles. Du coup, avec justement les musiques, les traditions chantées, parce que ces activités traditionnelles sont attaquées de toutes parts, soit par la déforestation, tout simplement. Hein, quand on regarde là où vivent les gavions, là où moi je travaillais, hein, donc les Indiens gavions d'Amazonie, du Rondônia, c'est tout déforesté autour. C'est de là que viennent tout le bois là pour faire par exemple la bibliothèque François Mitterrand, l'esplanade, le bois pour les piscines, hein, pour les autour des piscines, tout ce bois hippé, il vient d'Amazonie et souvent c'est du commerce illégal et les Indiens en pâtissent de ce commerce et du coup leur culture en pâtit énormément. Parce qu'il y a une déforestation, du coup leur tradition peut plus se maintenir. La parole sifflée, elle permet d'aider à la chasse. Quand il n'y a plus la forêt, on ne peut plus faire la chasse.
Un de nos auditeurs au Bénin, d'ailleurs, il s'appelle Richard, il nous demande, il dit plutôt que lui, il se rappelle que pendant son enfance, ce langage sifflé était souvent utilisé quand il y avait des activités paysannes, des grandes mobilisations pour situer les lieux où se déroulaient les travaux des champs. Et du coup, il demande si est-ce que les objets hein, qu'on peut rajouter, les tambours, les gongs, font aussi partie de ce langage sifflé ou cette parole sifflée.
Ben non, du coup, ça ressemble. Des fois, l'imitation qui est faite, c'est les mêmes bouts de la voix qui sont copiés, mais dans un son différent. Du coup, on ne dit plus parole sifflée, on peut dire parole tambourinée quand c'est sur un tambour, on peut dire parole gongée, ou je ne sais pas, quand c'est sur un gong. Quand c'est sur une harpe ou sur autre chose, c'est parole jouée à la harpe. Donc on peut dire tout simplement, d'une manière plus générale, le mode parlé des tambours. C'est d'ailleurs le mode parlé des instruments de musique. Donc c'est d'ailleurs ce que moi j'ai étudié aussi en Amazonie, avec le Muséo Goldi, chez les gavions, où j'étais parti juste pour étudier la parole sifflée, et puis comment elle nous aide à décrire hein, les tons de la langue, comment elle nous aide à décrire le rythme de la langue aussi. Je me suis rendu compte, enfin c'est les Indiens qui m'ont montré qu'ils avaient d'autres pratiques qui faisaient la même chose. Par exemple, ils m'ont dit, on siffle aussi avec les flûtes. Et les flûtes, elles chantent.
On peut siffler avec des flûtes. Donc, là, un instrument peut servir à la parole sifflée.
Donc là, on peut dire que c'est encore la parole sifflée. Mais c'est...
Mais quand on passe au tambour, on pense à Doudou Diaérose, on pense au langage des tambours. Ça, c'est d'autres formes de paroles tambourinées, pour le coup.
Voilà. C'est comme quand on se met à chanter, nous, on utilise encore le langage. Hein. Mais on change un petit peu de mode. Hein. Et ce mode-là, on l'appelle le mode chanté, parce qu'on est plus dans l'esthétique. Ben, si eux, ils font pareil, mais ils peuvent garder le sifflement et se mettre à jouer, du coup, plutôt des vieilles histoires, des vieux contes, des chansons qui résument un conte, des poésies d'amour ou des traditions, hein, comme les généalogies de tous les rois, comme au Burkina Faso, sur le Bendré, par exemple, chez les Mossi.
Alors, langage bendré, langage tambour, langage balafon, vous avez souhaité entendre Amadou et Mariam converser, chanter avec leur balafon, biffer balafon sur RFI.
Après, tu viens mon petit, pour le concert, si tu viens mon petit, il n'y a pas oublié moi, hein. Donc, moi, je m'appelle Mamadou, moi, je tombe ton musique, bien, bien, bien.
89 FM.
Sur RFI, biffé, balafon, comment se dire je t'aime avec un balafon, Julien Meyer?
Bah, j'imagine, moi je comprends pas le bambara, mais j'imagine que là il joue en bambara qu'ils disent des phrases. On a l'impression d'un solo hein, sur un fond musical plus régulier, et du coup j'ai toujours voulu leur demander ce qu'ils disaient là, je sais toujours pas.
Parce que c'est un mode de parole, évidemment, que le balafon.
Oui, alors le balafon, il y a eu beaucoup d'études là-dessus en Afrique, et puis même en France, qui sont intéressés à ça, parce que c'est un mode, souvent c'est le mode chanté du balafon, mais du coup, il y a forcément, hein, c'est joué là en polyrythmie, donc il y a plusieurs balafons, et puis il y en a qui disent juste une petite phrase, d'autres qui disent un solo. Et des fois, les phrases sont compliquées. Et puis, c'est de la poésie aussi.
C'est de la poésie. On est vraiment dans l'humanité, avec ces langues sifflées, avec ces modes de parole, entre parole et musique, justement, autour de la question, pourquoi tant de langues sifflées? Je propose maintenant de lever le rideau sur un autre registre. C'est celui du siffleur Fred Radix. Il est comédien, auteur et compositeur. Il interprète seul en scène un spectacle musical et humoristique dans lequel il siffle les plus beaux airs, classiques, pop ou rock. Fred Radix a une question à vous poser, Julien Meyer. Mais d'abord, on l'écoute siffler au micro de Raphaël Constant.
Alors, je pourrais peut-être commencer par du biset. Je pourrais faire une sorte de... Ou alors, la célèbre truite de Schubert. Et puis, pourquoi pas, faisons un voyage dans quelque chose d'un peu plus connu. Par exemple, une musique de film, ça pourrait être... Le sifflet, en tant qu'instrument, ça interpelle les gens. Utiliser un instrument que tout le monde possède, donc que tout le monde pratique au quotidien, mais moi de le traiter de manière virtuose, vraiment le travaillant comme un instrument de musique, je me suis aperçu que ça interpellait, parce que au-delà de l'aspect communicatif, il y a tout un symbolique, je dirais, nostalgique. Tout le monde a eu un tonton qui sifflait toute la journée, ou un papy, ou un voisin qui était peintre en bâtiment, ou maçon, ou bricoleur, et le sifflet appelle les souvenirs. C'est ce que les gens m'ont exprimé, en tout cas. Et puis, c'est vrai que sur les langues sifflées, pour le moment, toutes les langues sifflées que j'ai pu entendre, c'était des sifflets avec des doigts dans la bouche, parce que le langage sifflé, c'était pour parler et communiquer à distance. Donc, il y avait besoin d'un volume que je n'arrive pas, moi, à avoir, parce que moi, je travaille juste avec ma langue, mes dents et mes lèvres. Dès qu'il faut faire plus de sons, on met les doigts dans la bouche pour créer un appo beaucoup plus fort et envoyer beaucoup plus d'air. Donc, c'est beaucoup moins précis au niveau de la note. Évidemment, il y a des nuances, parce qu'il y a des choses incroyables qu'on arrive à faire passer par le sifflet. Et est-ce que, selon les pays, on met un doigt, un petit doigt, deux mains, je ne sais pas, à la manière des bises qu'on se fait en France? Selon les régions, on s'embrasse une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Voilà, est-ce qu'on a pu remarquer cette particularité? Ça m'interpelle, cette question.
Que pouvez-vous répondre à Fred Radix, Julien Meyer? Les langues sifflées, ça se pratique toujours avec un doigt, deux doigts
Ça se pratique dès qu'on peut sortir un sifflement, la technique est bonne, et qu'on peut articuler en sifflant en même temps. Donc, celle qui fait lui, c'est parfait pour communiquer à moyenne distance ou petite distance ou dans des environnements où on doit être un peu discret, comme par exemple en Amazonie, ils utilisent beaucoup cette technique-là. Et puis, ils arrivent quand même à atteindre, comme lui d'ailleurs, une bonne puissance si on s'entraîne. Donc pour aller d'un côté à l'autre de la rivière, pendant la chasse, hein, faut pas non plus effrayer les animaux en sifflant trop fort.
Mais quand est-ce qu'on utilise ses doigts? Donc,
les doigts, c'est pour aller, effectivement, il le décrit très bien, c'est pour aller plus loin. Du coup, créer une cale sur lequel qui va permettre de faire encore plus de pression dans la bouche.
Vous nous montrez ce que ça donne? On est à la radio, je vais peut-être vous demander de vous reculer un tout petit peu du micro.
Mais du coup, il y a plusieurs techniques. On peut aussi retourner la langue, mais en mettant les doigts, ça donne. à la technique canarienne, en retournant le doigt à l'intérieur de la bouche, ça donne ça. Par exemple, je dis « Où es-tu ?»
Ah, pas mal.
Et
oui.
Par contre, donc je le fais en sifflant comme, comme le virtuose qu'on
sans
a entendu.
Ouais.
Et puis ensuite, je peux le faire une technique encore plus forte. Moi, je ne maîtrise pas toutes les techniques. Hein. Mais une technique que je maîtrise un peu, c'est avec les deux petits doigts qui se joignent en V dans ma bouche.
Ah, là, ça porte plus loin encore.
Je peux
encore.
Dire coucou.
C'est entre de la parole, la phonétique et du sifflement quand même. On entend, quand on le sait, on entend les lettres.
Oui, oui, le que, cou, cou, et te, tu, ta, tu, ti, ce serait tu. Bah, là, j'ai plus
plus les... de souffle, il va falloir boire un peu d'eau. Mais voilà pourquoi aussi ça intéresse énormément tous ceux qui travaillent sur l'apprentissage du langage, les neuroscientifiques notamment, sur la manière dont le langage naît. C'est vraiment lié à la communication chez les humains. Nos auditeurs nous demandent le lien avec le langage des animaux. Est-ce que ça permet de comprendre un peu plus le langage des animaux, de comprendre ce langage-là?
Bon, ça permet de s'intégrer dans la nature, c'est sûr. Mmh. Du coup, c'est utilisé dans des pratiques qui sont rurales. Hein. Donc là, il y a un rapprochement avec les animaux. C'est utilisé pour la chasse, donc c'est utilisé aussi...
Pour les troupeaux.
Oui, les mêmes techniques peuvent être utilisées à ce moment-là pour copier les sons des animaux, le sifflement. Mais là, on n'articule plus la parole. Encore que, hein, des fois, on utilise des vocables pour imiter le toucan, par exemple, les wayampi ou les gavions dont je parlais juste avant. Pour imiter le toucan. Le mot toucan, d'ailleurs, vient de chez eux. Hein. Donc, ils font toucan, parce que son son est devenu un mot, le son de la nature est devenu un mot. Donc là, il y a des fois des mots onomatopéiques comme ça, dont l'origine est un sifflement des animaux, et qui les Indiens utilisent parfois un intermédiaire parlé pour siffler pour le réaliser.
Mais les neuroscientifiques se demandent quand même parfois, ouais, si on n'aurait pas siffler peut-être avant de parler. Est-ce que la parole est première? Est-ce que le sifflement est premier?
Alors, c'est sûr, le sifflement, il est aussi bien adapté pour parler loin, pour parler pendant des activités donc de survie ou de subsistance, qui sont décrites en général comme les premières activités qui auraient incité les hommes à intensifier leur communication orale. Parce qu'on est loin, on se voit moins bien, mais par contre, par exemple, je sais pas, à Solutré, moi, j'ai des grands-parents qui vivaient pas loin, du coup, je connais cet endroit-là. Il fallait, à pied, pousser des gros animaux pour qu'ils aient peur et qu'ils montent sur cette roche. Et c'est possible que le sifflement ait aidé à ce moment-là. D'abord, peut-être juste pour se signaler, comme c'est utilisé à plein d'endroits dans le monde, hein, encore aujourd'hui. Et peut-être que s'il y avait besoin de choses un peu plus élaborées, et commencer des mots. En tout cas, sur l'origine, hein, on est toujours en train de faire des scénarios, on n'est pas sûr...
Comment s'est-on mis à parler? A-t-on sifflé d'abord? Voilà. Mais ça peut donner des pistes, en tout cas.
Oui, la parole sifflée, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'utilise que l'avant de la bouche. Hein. Enfin, c'est un peu exagéré de dire ça, mais comme source et comme articulateur, les cordes vocales ne vibrent plus. Elles laissent passer l'air, elles contrôlent le flux d'air, mais par contre, elles ne vibrent plus. Et cette vibration des cordes vocales est dite, en général, dans les recherches sur l'origine du langage, comme essentielle pour l'origine du langage. Mais en chuchotement ou en sifflement, en fait, il n'y en a pas vraiment besoin de cette vibration. Donc, ça fait se poser en tout cas des questions nouvelles sur l'origine du langage.
Sur l'origine du langage et de nouvelles études récentes sur cette langue turque dont vous avez parlé au tout début de cette émission, sur cette langue turque, dite langue des oiseaux, que je vous propose d'écouter tout de suite, vont nous faire avancer dans notre réflexion.
Mehmet okula git.
Alors cette langue du village turc de Koskoy, hein, au bord Koshkoy, de la...
Ouais.
Koshkoy, on dit. Ouais. C'est pas sifflé, mais il faut que je le prononce comme il faut. Il y a une étude très récente qui a été publiée dans une revue scientifique, dans Current Biology, qui disait que ce sifflement en langue turque, cette parole sifflée, faisait travailler les deux hémisphères du cerveau, et non pas seulement un seul hémisphère, comme c'est le cas du langage ou de la parole normale.
Alors, en fait, la parole normale, elle fait travailler les deux. C'est juste que quand on fait des statistiques sur les activations du cerveau ou les réponses des oreilles à des sons, on ressort ce qui domine seulement. Et dans la parole, on constate que ce qui domine pour la compréhension de la parole, en général, chez des sujets sains, c'est le cerveau gauche et donc plutôt l'oreille droite qui entend...
Cerveau gauche, oreille droite, alors que là...
Dans cette expérience qu'ils ont fait, ils ont fait écouter en simultané, donc c'est pas une étude de neurosciences à proprement dite, hein, c'est une étude comportementale où ils ont fait écouter en simultané des sons en concurrence à gauche et à droite, pas et bas par exemple, et des fois pas et pas des deux côtés, et puis ils ont regardé c'était plutôt quelle oreille qui... Et donc, quel cerveau qui entendait le son ou qui dominait sur l'autre pour entendre le son. Et ils ont remarqué que dans la voix parlée, c'était plutôt à gauche, et donc l'oreille droite qui percevait le... Enfin, c'était
les
le
paroles.
Son qui était joué dans l'oreille droite qui était entendu. Dans la parole sifflée, il y avait plus de confusion, et du coup, il y avait un équilibre entre les deux cerveaux, entre les deux oreilles, en fait. Et du coup, on peut dire que, à ce moment-là, les deux cerveaux sont activés au même niveau. C'est en tout cas leur conclusion.
Il faut encore mener des recherches là-dessus, mais en tout cas, c'est intéressant que cette parole sifflée mobilise les deux hémisphères de notre cerveau.
Oui, ce qu'il y a, c'est que leur explication, ce serait que comme c'est plus mélodique, le cerveau droit, on le sait, est souvent utilisé, enfin est souvent activé préférentiellement par la musique. Du coup, eux ils disent bon bah c'est cet aspect-là qui explique nos résultats. Il se peut que ce soit d'autres aspects, comme par exemple le fait qu'il y a moins d'informations dans la parole sifflée et que du coup il y a une moindre activation du cerveau gauche.
Il y a moins d'informations, mais elle est très concentrée quand même dans la parole sifflée. Nouvelle question pour vous, Julien Meyer, c'est celle de Caroline Tourbe du magazine Science et Vie.
Est-ce que quand on vit dans une population qui utilise la langue sifflée, on commence à parler plus tôt ou moins tôt? Est-ce que ça change quelque chose ou pas du tout pour les enfants?
Qu'est-ce que vous avez constaté, Julien Meyer? Ça change quelque chose pour l'apprentissage quand on est enfant et qu'on est dans un environnement où on siffle la parole?
Alors, pour voir ça, il faudrait faire des études chez les gens qui l'utilisent encore beaucoup, où les enfants l'entendent depuis tout petit. Les travaux qu'a mené M. Bustel, par exemple, en Turquie, ont montré que les enfants l'utilisaient en production, à partir du moment où ils accompagnaient leur papa dans les activités à l'extérieur du village, vers 12 ans, tout ça. Mais par contre, ils le maîtrisent avant. Et ils s'entraînent, étant plus jeunes, à le faire. Ça demande une coordination et une puissance que les tout-petits n'ont pas, mais par contre, ils le comprennent très bien. Et donc, dès 5 ans, il y a des preuves que les enfants le comprennent bien dans ces quelques études qu'ils ont montrées. Moi, je l'ai observé chez les... chez les berbères dans l'Atlas, là où j'ai été, dans des villages berbères, on a vu des tout petits enfants qui maîtrisaient super bien la langue sifflée. Et même en production, et ils avaient 5 ans, je dirais, ou 6 ans. Et du coup, mais bon, je ne les ai pas enregistrés, j'ai juste eu le plaisir de les voir faire.
Vous-même, vous avez l'impression, Julien Meyer, que ça a changé quelque chose dans votre, dans votre pratique du langage, dans votre humanité. C'est quand même très très humain, bien plus humain qu'on pourrait l'imaginer comme ça. C'est le fait de communiquer par tous les moyens possibles, et notamment par la voix, par la musique.
Ce qui est intéressant dans la langue sifflée, c'est qu'elle oblige à aller plus loin un peu partout. Dans les voyages, à aller là où la modernité...
Les points les plus reculés, oui.
Ouais, la modernité n'a pas encore tout détruit dans les campagnes. À aller aussi en recherche à l'interface entre plusieurs domaines, parce qu'elle oblige à ça, hein, on l'a bien vu là dans les différents sons que vous avez fait écouter. On est à la limite entre la musique, le langage, la parole.
Et c'est une langue qui intéresse aussi les informaticiens, peut-être pour les ordinateurs du futur, pour analyser le langage, pour comprendre comment le reproduire. Enfin, on est vraiment à la croisée de l'ancien et du futur, si on arrive à préserver ces langues sifflées.
La parole sifflée, c'est vrai qu'elle s'appuie sur la puissance du cerveau humain à reconnaître des sons qui sont parcellaires, on va dire, mais à quand même, malgré tout, pouvoir reconstruire des phrases à partir de ces sons qui sont dégradés à la source, là. Pas par le bruit ou pas par l'environnement citadin. Mais par contre...
Oui,
si on veut en faire un outil informatique, il faudrait que tout le monde fasse l'effort d'apprendre à reconnaître ces sons, la parole dans ces sons. Ce qui n'est pas vraiment forcément la tendance actuelle où on veut les choses rapidement. Et pour vendre une application, il faut des choses rapidement. Par contre, il y a un côté ludique, il y a un côté prendre conscience de sa propre langue qui peut marcher là. Mais c'est plus du coup un côté humain qui domine, et c'est ça qui est intéressant finalement. C'est de la télécommunication, mais qui nous ramène à la nature.
Ouais, qui vous ramène à la nature. D'ailleurs, j'ai envie de citer le titre d'un chapitre que vous avez publié dans un ouvrage qui est paru aux éditions Belin sur justement comment passe l'information. Et c'était le premier téléphone portable, c'est ça, les langues sifflées ou la parole sifflée. Merci infiniment d'être venu siffler en direct sur RFI. Comment vous pourriez nous dire au revoir en sifflant, Julien Meyer?
Au revoir.
J'ai tout compris. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio en sifflant, hein, si ça vous chante, comme Micheline Dax, la javanaise, juste pour le plaisir. Avant de retrouver les informations sur la radio mondiale, on écoute Micheline Dax siffler la javanaise.
À Paris, 89 FM.